With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 2 mai 2042. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ah mais c'est dingue.
Tu fais quoi?
Je regardais des vieilles photos de l'équipe de La Loupe. Regarde ça.
C'est les masques qui te gênent?
Non, les masques, c'est normal. Tiens, regarde les métadonnées. La photo date de 2022. C'était en pleine vague Omicron ou Deltacron, je sais plus. Omicron, je crois. Enfin bon, on avait pique-niqué dehors. Il faisait super beau jour là, mais regarde bien.
Je suis censé voir quoi?
Bah, y a du plastique partout. Regarde tous ces emballages, ça paraît dingue quand on y pense. Pour chaque plat, il n'y a que du plastique. Les chips, du plastique. On a tous des petites bouteilles en plastique.
Tous les sacs autour de nous et les tomates cerises emballées en plastique.
Bon, nous sommes bien le lundi 2 mai 2022. Mais si tout se passe comme prévu, la scène que vous venez d'entendre pourrait vraiment se produire. La France traque activement les emballages et vise une sortie du plastique jetable à l'horizon 2040. Pour le remplacer, toute la filière cherche des solutions, quitte à réinventer le plastique. Ah, Philippine, je vois que tu as privilégié la gourde à la bouteille en plastique traditionnelle.
Oui, pour une fois, je ne l'ai pas oublié ce matin.
J'accueille en studio Philippine Robert, journaliste au service économie de l'Express. Salut Philippine.
Salut Xavier.
Philippine, ensemble, on va parler des bouleversements de la filière du plastique en France, parce qu'aujourd'hui, cette industrie n'a plus le choix.
Oui, la filière n'a plus le choix, elle doit s'adapter, parce que la France s'est lancée dans la chasse au plastique jetable. En 2020, une loi a été adoptée, la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et elle prévoit notamment la sortie du plastique jetable d'ici à 2040, comme tu l'as dit. Donc cet horizon peut te paraître encore lointain, mais en fait, ça a déjà commencé. Il y a déjà eu plusieurs étapes et les prochaines arrivent très vite.
D'ici 2018, les billes microplastiques seront interdites. Autre produit dans le collimateur de la loi biodiversité, les cotons-tiges. Les bâtonnets en plastique devront disparaître avant 2020.
Ensuite, dès l'an prochain, 2021, ce sera au tour des pailles en plastique.
Pommes sous cellophane, poivrons en sachet et carottes en barquette, c'est bientôt fini. La plupart des fruits et légumes n'auront plus d'emballage au 1er janvier 2022.
Et à partir du 1er janvier 2023, les chaînes de fast-food n'auront plus le droit du tout d'utiliser des contenants jetables.
Et donc en 2025, les plastiques à usage unique devront avoir été réduits de 20%. Ceux restants devront être recyclés à 100%. Et il faudra avoir supprimé tous les plastiques jetables considérés comme inutiles.
Il faut vraiment se débarrasser de tous les plastiques qui sont inutiles parce que ce sont des matériaux qui ne sont pas bénins. Qui présente un danger qu'il est quasiment impossible ensuite d'éradiquer.
Je vous présente Nathalie Gontard. Elle travaille à l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et on lui a demandé de nous rappeler quel danger pose précisément le plastique.
Très souvent, on réduit de façon extrêmement fausse le danger lié à la pollution plastique au bilan carbone. Or, le principal danger lié à la pollution plastique, il est lié au comportement très très particulier du plastique comparé à tous les autres matériaux que nous utilisons. Et donc ce plastique présente la particularité de se fragmenter en bouts de plus en plus petits. Donc après on va parler de microplastique, de nanoplastique. Cette fragmentation s'étale sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et plus le plastique se retrouve sous la forme de bouts qui sont petits, et plus il va avoir la faculté non seulement de voyager dans tous les compartiments de la Terre, mais aussi il aura la particularité d'interagir de plus en plus facilement avec tous les polluants qu'il va rencontrer sur son chemin. Donc tous les polluants organiques, les pesticides, etc. Et donc il va pouvoir, comme ça, les véhiculer jusque dans les organismes vivants. Et du coup, on a créé un réservoir monstrueux en micro et nanoplastique.
Philippine, Nathalie Gontard parle de réservoir monstrueux. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ?
Alors oui, en février dernier, l'OCDE a publié un rapport qui nous donne une petite idée de ce réservoir. Donc le monde produit chaque année 460 millions de tonnes de plastique. En 20 ans, ça a quasiment doublé. Et les déchets plastiques, quant à eux, ont été multipliés par deux. Et si on prend, par exemple, juste les emballages plastiques en France, on est déjà à 2 millions de tonnes. Donc ça te donne une idée de l'ampleur prise par le plastique aujourd'hui.
Si j'ai bien compris, Philippine, il va falloir passer de ces 2 millions de tonnes à zéro d'ici une vingtaine d'années. Et donc, chômage technique pour la filière.
Alors oui, pour les industriels du secteur, cette sortie du plastique jetable représente une menace sur leur chiffre d'affaires et donc sur leur activité. Mmh. Mais comme tu l'imagines, ils n'ont pas l'intention de mettre la clé sous la porte. Les producteurs, les transformateurs et les distributeurs sont en train de s'adapter à cette nouvelle donne. Et en plus de ça, on a aussi de nombreuses startups qui viennent se positionner sur ce marché, qui pensent que cette mutation est une opportunité. Et ils n'ont pas totalement tort, parce qu'en plus de cette loi AGEC qui est contraignante, il y a aussi une demande importante de la part des consommateurs qui veulent consommer des produits plus respectueux de l'environnement. Et donc pour les industriels, c'est important d'avoir cette image de marque et de montrer qu'ils sont conscients de cet enjeu et qu'ils essayent de changer les choses.
Donc chiffre d'affaires, pollution, demande sociétale, le plastique c'est plus fantastique. Il est temps de se pencher sur les alternatives envisagées par les acteurs du secteur. Des couverts en bois, des emballages en papier, des pailles en aluminium, on commence, Philippine, déjà à voir les effets de la loi AGEC. Est-ce qu'on peut imaginer une disparition totale du plastique ?
Alors non, ça paraît un peu utopique. D'abord parce que le plastique, contrairement à d'autres matériaux, conserve certains atouts. Mm-hmm. Il est léger et robuste, il ne se casse pas, à la différence du verre. Et donc les industriels du secteur mettent en avant ces qualités du plastique, qui pourraient même être encore améliorées si au lieu de se concentrer sur du plastique jetable, ils se concentraient sur du plastique réutilisables, mmh. ce qu'ils sont en train de faire. Donc par exemple, j'ai pu échanger avec le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Carty et qui fabriquait avant des flûtes en plastique jetables. Mmh. Lui avait anticipé cette bascule il y a 2 ans et finalement il l'a vu comme une opportunité. Il a adapté sa production et il fait aujourd'hui des flûtes en plastique réutilisables et il est très content d'avoir fait cette bascule.
Et cette bascule, elle peut se faire facilement ?
Alors pas forcément, car ils doivent passer d'un modèle où le plastique jetable devait être le moins cher possible à produire à un modèle où on va leur demander de produire un plastique plus qualitatif, justement, qui puisse être réutilisé. Il faut aussi imaginer des solutions pour le réemploi de ce plastique, parce qu'on ne va pas spontanément aller au supermarché forcément avec son contenant réutilisable. Donc il y a toute une approche à développer, un modèle économique à réinventer, et c'est notamment là que se positionnent certaines startups.
Comment ça ?
Alors je vais te prendre l'exemple d'une startup qui s'appelle Pixo, et eux, ils veulent lutter contre les emballages inutiles dans la restauration. Mmh. Par exemple, ce midi, tu as envie de manger des sushis. Donc on
comment
voit
tu
tous...
sais
Je l'avais deviné. On voit tous la petite boîte en plastique dans laquelle sont placés les sushis.
Tout à fait.
Et donc, cette start-up a développé des contenants réutilisables dans lesquels ils ont mis une puce RFID, donc qui permet de tracer ces contenants. Mm-hmm. Donc, toi, tu vas aller chercher tes sushis, tu vas récupérer tes sushis dans cet emballage, tu vas les ramener au bureau pour les manger. Mm-hmm. Et ensuite, si tu ne ramènes pas ton contenant pour qu'il soit nettoyé et réutilisé par le restaurant de sushi, eh bien, tu vas avoir de l'argent qui va être prélevé sur ton compte. Donc, c'est un peu le système de la consigne qui est remis au goût du jour. Et ils sont également en train de travailler sur un autre système où là, tu aurais le droit à une récompense si tu ramènes ton contenant. Donc voilà, ils vont voir laquelle des deux solutions fonctionne le mieux.
Bon, tout ça me donne un petit peu faim. J'imagine que la loi AGEC doit pousser les restaurateurs à s'adresser à ce type de start-up.
Alors oui, au début, quand ils sont lancés, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des restaurateurs intéressés, parce que pour eux, ça coûte plus cher de mettre en place quand même ce système. Ensuite, il faut pouvoir nettoyer ces contenants. Mais ils ont eu une petite impulsion grâce à cette loi AGEC, parce que bientôt, les fast-foods ne pourront plus servir des repas sur place dans des contenants jetables. Donc beaucoup de restaurateurs sont montrés intéressés à partir de ce moment-là, et cette start-up a réussi à lever 7 millions d'euros l'année dernière. Mmh. Après, il faut voir, parce que pour l'instant, ça fonctionne sur des petits volumes. Est-ce qu'à grande échelle, cette solution peut vraiment fonctionner et s'imposer un peu partout ?
Tu l'as dit, Philippine, le secteur mise sur le réutilisable. Mais j'en ai parlé avec Nathalie Gontard, qui, elle, est particulièrement sceptique sur le réemploi du plastique dans ces conditions.
Interdire le plastique jetable était une initiative louable, sauf que l'interdire comme ça, ça a donné lieu tout simplement à la création des mêmes objets, mais plus épais. Donc une assiette en plastique plus épaisse, elle est réutilisable. Un verre en plastique plus épais, il est réutilisable. Donc on a l'impression que ça les rend inoffensifs. Mais pas du tout. Un verre en plastique épais... c'est une quantité de matière plastique qui finira en micro et en nanoplastique, c'est-à-dire en danger pour l'environnement et la santé de l'homme. Donc là, c'est une forme de contournement pour moi qui n'a pas été anticipée.
Le plastique réutilisable a donc ses limites, mais les industriels de la filière ont plus d'un tour dans leur sac.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes en train de mettre en place, et nous avons déjà pris les engagements, d'avoir 100% de plastique recyclé d'ici 2025.
Philippine, on vient d'entendre cet engagement d'Emmanuel Macron, c'était en 2019. On en est où du recyclage du plastique aujourd'hui ?
Alors écoute Xavier, la France est plutôt à la traîne. On recycle seulement 28% de nos emballages, contre 41% en moyenne dans les autres pays de l'Union européenne. Donc pourquoi ? C'est parce qu'on a commencé assez tardivement à mettre des incitations en place par rapport à d'autres pays. Cela dit, on est en train d'accélérer et d'avancer vers l'objectif de 2025, notamment car bientôt il va y avoir une obligation d'incorporation de matières recyclées qui va être mise en place au niveau européen. Et en plus de ça, il y a une extension aussi de la consigne de tri qui va permettre d'avoir accès à un gisement plastique plus important et donc de pouvoir recycler plus.
La France voudrait rattraper son retard concernant le recyclage, d'autant plus que les industriels s'y intéressent aussi.
Et oui, et pour plusieurs raisons d'ailleurs.
Alors on va les détailler ensemble.
Alors la première raison, c'est que la demande en plastique recyclé est aujourd'hui plus importante que l'offre. Mmh. Donc pour les industriels du recyclage, il y a intérêt à ouvrir de nouveaux sites de production.
Donc ça, c'est la première raison. Quelle est la deuxième ?
Alors, la deuxième raison, c'est que pour les utilisateurs de ces emballages, donc par exemple les entreprises qui vendent des bouteilles d'eau en plastique ou des flacons de produits de beauté, le surcoût du plastique recyclé joue de moins en moins. Ils sont prêts à payer ce surcoût parce que ça a un effet positif sur leur image. Ils peuvent afficher sur le produit que le produit est recyclé à tant de pourcents. Donc ça joue aussi en faveur du recyclage.
Tu parles des coûts, Philippine. On sait que le plastique est fabriqué à partir de pétrole. Et quand on voit les cours actuels du pétrole, on se doute que ça joue aussi.
Alors oui, parce que le plastique recyclé, son prix est relativement stable par rapport à celui du plastique vierge, donc le plastique neuf, qui dépend, comme tu le disais, beaucoup du cours du pétrole et qui donc peut connaître de grandes hausses ou de grandes baisses.
Donc on celui est plutôt sur de la hausse en ce moment.
Plutôt sur de la hausse en ce moment. Alors que celui de plastique recyclé, comme il est relativement stable, les industriels peuvent anticiper, se dire bah, « je paierai tant d'euros ». Et donc pour eux, ça présente quand même un certain avantage. Mmh. Et en plus de toutes ces raisons, aujourd'hui on a des fonds publics qui sont destinés au secteur dans le cadre du plan de relance et du plan France 2030, ce qui booste également la filière du recyclage. Et il y a un potentiel important de développement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore tout recycler. C'est surtout les bouteilles et les flacons qui sont recyclés, mais il y a beaucoup d'emballages pour lesquels on ne sait pas faire.
J'ai parlé de ce recours au recyclage du plastique à Nathalie Gontard. Elle m'a expliqué qu'il fallait distinguer plusieurs degrés de recyclage.
Le recyclage le plus basique, ça peut vouloir dire tout simplement on prend du plastique, on le fond sous l'effet de la chaleur et on refabrique un objet. Ça, c'est une forme de recyclage qui en réalité n'en est pas un. C'est ce que moi j'appelle un décyclage. Ce n'est pas une économie circulaire, c'est ce que moi j'appelle une économie tire-bouchon. C'est-à-dire qu'on va remplacer un matériau qui ne posait pas de problème d'un point de vue environnemental, par exemple le bois, Le bois du cintre, on va le remplacer par du plastique recyclé. Le métal de la table, on va le remplacer par du plastique recyclé. On camoufle les déchets sous la forme d'un autre objet, mais en plus, on fait perdurer parce qu'on crée des filières entières et on fait disparaître des filières de matériaux traditionnels qui ne posaient pas de problèmes environnementaux.
Voilà, maintenant on sait ce que c'est que le décyclage, c'est-à-dire le degré zéro du recyclage. Et ensuite, il y a le recyclage mécanique. C'est quoi ça, Philippine ?
Alors, le recyclage mécanique, c'est la technique qui est principalement utilisée aujourd'hui en France. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques.
Si, si.
Mais en gros, on va récupérer, par exemple, une bouteille en plastique. On va la broyer, la chauffer. Ça va faire des sortes de petites billes, de granulés, qui ensuite vont pouvoir être réutilisées pour faire une bouteille en plastique, une nouvelle bouteille en plastique.
On sait que ça marche à peu près bien, mais quand même que le plastique est toujours un peu dégradé. Donc, on le mélange à du plastique vierge pour retrouver les mêmes propriétés. Et puis, on a environ 30% de perte à chaque cycle. Donc, on peut recycler 2-3 fois ces bouteilles. Voilà, ça, c'est le meilleur recyclage. Et actuellement, ce recyclage, il représente à peu près 2% de tous les plastiques que nous utilisons.
Alors, ce recyclage traditionnel n'est pas parfait. On ne peut pas recycler tous les plastiques, par exemple, avec, mais il s'améliore quand même de plus en plus. Par exemple, à Veolia, ils sont en train d'équiper leur centre de tri d'intelligence artificielle et de robotique, parce qu'on perd aussi beaucoup de plastique à cette étape-là. Et donc, si on améliore aussi le tri, on pourra recycler plus.
Si je résume, on a un recyclage qui ne concerne que 2% des plastiques, qui ne fonctionne que 2 ou 3 fois. Et pourtant, selon Nathalie Gontard, c'est la meilleure option aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres, Philippine ?
Alors oui, il y a le recyclage chimique, qui, comme son nom l'indique, utilise des solvants chimiques pour recycler, par exemple, ta bouteille d'eau. Mais il permet aussi de prendre en charge des plastiques qui ne sont pas traités aujourd'hui par le recyclage mécanique. Donc, on a eu, en début d'année, 2 annonces d'implantation. L'américain Eastman et le québécois Loop Industries qui vont installer 2 usines géantes de recyclage chimique en France. Mais cette technique pose quand même un petit problème. C'est que, comme je disais, on utilise des produits chimiques, des solvants, qui ont quand même un impact sur la santé et sur l'environnement. Et en plus, cette solution est particulièrement énergivore, donc pas très respectueuse de l'environnement.
Donc là aussi, on a une technique imparfaite. On continue notre tour des techniques de recyclage. On va bien finir par en trouver une satisfaisante.
Alors oui, Xavier, j'en ai une autre à te proposer.
Oui, laquelle ?
Alors, c'est le recyclage enzymatique.
Enzymatique, d'accord.
Alors, en fait, on va utiliser des enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des molécules qui vont venir grignoter le plastique pour refaire à nouveau des petites billes de plastique qui pourront être réutilisées.
On est à 60-70 degrés et cette enzyme, en quelques heures, va faire son job. C'est assez révolutionnaire au sens d'avoir introduit dans le monde de la plasturgie les enzymes.
Alors ça, c'est la start-up Carbios qui est en train de développer ça. Et donc, quel est l'intérêt de cette technologie ? Déjà, c'est un procédé biologique qui n'utilise pas de produits nocifs pour l'environnement, contrairement au recyclage chimique. Ensuite, c'est un procédé qui se fait à faible température. Et donc, l'empreinte carbone de ce procédé est relativement réduite par rapport à d'autres techniques de recyclage. Pour le moment, la start-up a montré qu'en phase de démonstrateur, ça pouvait fonctionner. Mais il reste encore à passer à la phase d'industrialisation. Et donc, voir si cette technique peut vraiment marcher à une grande échelle pour recycler toute la quantité d'emballages plastiques dont on a parlé précédemment.
Donc, pas encore la solution miracle. J'ai demandé à Nathalie Gontard ce qui, pour elle, pouvait constituer le recyclage parfait.
La boucle la plus parfaite de recyclage, entre guillemets, c'est le recyclage de toute matière organique qui est biodégradable et photosynthétisée. Et là, on tombe sur les plastiques biodégradables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des nouveaux plastiques qui se développent, qui sont des plastiques qui peuvent être réutilisés, recyclés, mais qui, à la fin, sont réassimilables de façon naturelle par notre environnement et notamment par les micro-organismes présents dans le sol. Donc le danger, là, lié à la persistance, à la fragmentation du plastique, disparaît. Donc moi, j'y crois quand même. Mais bien évidemment que c'est pareil. On ne va pas remplacer tous les plastiques par des matériaux biodégradables. Je pense que ça ne serait pas réaliste, en tout cas sur un temps très court. Donc vu l'urgence de la situation et vu la quantité de plastique qu'on utilise, je pense que la première chose, ça va être d'abord d'apprendre à s'en passer.
Alors, se passer du plastique, ce n'est, comme on l'a vu, pas, pour le moment, pas la voie qui a été choisie par la filière. Et le biodégradable, c'est effectivement une piste qui est très intéressante, mais aujourd'hui qui n'est pas au point pour toutes les utilisations du plastique. Donc, il y a encore beaucoup de recherches qui est à faire dans ce domaine pour trouver une bonne solution. Mais un point intéressant qui a été soulevé par l'OCDE dans le rapport dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, seulement 1,2% des innovations industrielles identifiées dans le secteur du plastique sont en lien avec l'environnement. Donc on peut se dire qu'il y a encore une grande marge de manœuvre et qu'on pourra se retrouver dans quelques années pour parler des innovations qui nous permettent d'avoir un plastique plus respectueux de l'environnement.
Se passer du plastique, miser sur le biodégradable ou mettre l'accent sur les innovations vertes, la filière a de quoi réfléchir pour poursuivre sa révolution. Merci beaucoup Philippine.
Merci Xavier.
Philippine Robert, journaliste au service économie de l'Express. On peut retrouver ton article sur le plastique et tous les autres sur le site de l'Express. Profitez-en, en ce moment, l'abonnement pour 3 mois ne coûte que 99 centimes. Et sachez, chers auditeurs, que la loupe est recyclable à l'infini. Si vous voulez retrouver tous nos épisodes passés et en découvrir un nouveau tous les jours dès 6h du matin, rien de plus simple, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.